Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous et avec Gérard Collard, immense plaisir de retrouver notre libraire préféré, la Griffe Noire à Saint-Maur. Bonjour Gérard.
Bonjour madame. Vous n'avez pas besoin de hurler hein, parce que j'ai été appareillé il n'y a pas longtemps. Là, c'est la joie.
C'est la joie, je ne comprends plus
cela,
ma joie.
Oui.
Un petit mot pour signaler que demain, c'est la fête de la librairie indépendante.
Youpi,
voilà. Non, mais il faut soutenir nos libraires, répétera jamais assez. Et puis surtout, c'est la fête, on célèbre le prix unique du livre, c'était la loi Lang, c'était en 81, figurez-vous. Et ça, ça a été une très bonne loi pour...
Je crois que rien que pour ça, il mérite qu'on se souvienne de lui, parce qu'il y aurait beaucoup de librairies. D'ailleurs, même maintenant, hein, si on supprimait ce prix unique, on serait mort, hein, c'est clair.
Et alors, il y a un petit livre, c'est l'association Verbe, avec Gallimard, qui publie Que vive la loi unique du prix du livre. Alors vous dites, bon, je ne vais pas lire ça, on vous l'offre demain dans 480 librairies indépendantes. Et c'est vraiment l'histoire de ce combat, parce que c'était un vrai combat, ouais, que de faire accepter que les librairies puissent vendre des livres au prix unique décidé par l'éditeur. Et il y a un très beau texte d'Agnès de Sarthe, Lettre aux jeunes lecteurs, où elle dit à toi qui veux être libre, à toi qui déteste t'ennuyer, à toi qui préfère dire non que oui, à toi qui aime te coucher tard, manger des bonbons, sauter dans les flaques, bref. Et elle dit, quand j'avais ton âge, je n'aimais pas lire, voilà, j'ai avoué, je détestais lire même, et c'est tout ce que la lecture permet de faire découvrir. Donc,
Et moi, je trouve que le confinement, c'était désastreux pour beaucoup de choses, mais par rapport aux gamins et aux jeunes, je trouve que comme ils n'avaient rien d'autre, ils sont reprécipités dans les librairies, et je trouve qu'on a...
Sur les réseaux et autres...
On a beaucoup ressenti, ils ont redécouvert quand même. C'était...
Bon, alors on n'est pas content avec Gérard, parce qu'on vous conseille des livres formidables, et on va vous remettre une petite couche de... Alors Gérard, vous n'êtes pas content,
moi, pourquoi ? Non, parce que c'est vraiment un livre d'exception, c'est Édouard Carré, il a écrit Petite au Cherche Midi, et je ne sais pas pourquoi. Alors pour moi, ça a été une révélation. En plus, si vous regardez en podcast, vous allez voir, c'est un très joli objet. Regardez, déjà on dit souvent que les livres sont moches, et là ils ont fait, il y a des petites illustrations faites par l'auteur. C'est l'histoire de cette petite fille qui est très pauvre, qui vit dans l'est ou le nord de la France. Puis sa mère, enfin son père meurt, il est soldat, il se retrouve à Paris, serviteur carrément, parce que la pauvre femme.
Exploité.
Et il se retrouve chez un médecin solitaire. Et alors là, c'est une vie absolument incroyable. Elle est terrorisée, la petite fille, enfin la mère, parce qu'en fait, ce type, il refait en carton des organes pour l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a des langues dans son laboratoire, il y a des langues. La mère, alors, c'est une histoire vraie, hein, la petite fille, un matin, retrouve sa mère pendue au-dessus de son lit. Elle va devenir complètement fascinée par ce personnage, par ce médecin. Alors, il fait des statues, des visages en papier, en carton mâché, qui sont absolument fascinants. Alors, je vous en passe, c'est carrément Alexandre Dumas. Hein. Il se passe plein de choses. Il va se retrouver à Paris, à la Révolution. Il va faire les masques de Robespierre, de plein de choses comme ça. Et puis, ils doivent s'enfuir parce qu'ils sont menacés de mort par la Révolution. Et ils vont se retrouver à Paris, à Londres, où ils vont créer. Qu'est-ce qu'ils vont créer? C'est le musée de Madame Tussaud. En fait, c'est la véritable histoire de Madame Tussaud. Mais il y a des rebondissements. C'est toute l'histoire d'une époque.
C'est ce musée extraordinaire à Londres, ces personnages de cire. Et donc c'est intéressant, de connaître l'histoire.
Et alors c'est une Française, elle est Française, elle est du nord.
Marie Grosse-Aulle, elle est née en 1761 à Strasbourg.
Mais allez-y, c'est lisible, vous le faites lire à partir de 17-18 ans. C'est vraiment un livre d'aventure.
Le destin d'une femme à cette
incroyable,
époque-là.
C'est incroyable. La gosse, elle est passée... moi, je trouve qu'il y a une espèce, comme on dit, c'est très la mode maintenant, de résilience dans le malheur. C'est rempli d'humour, d'histoire. Il y a tout. Et alors, je ne comprends pas, je ne sais pas. J'en parle
elle
pas très bien.
Elle a échappé à la guillotine, je vois.
Oui, absolument.
Et donc, elle exécute ses masques mortuaires.
Et j'imagine, il y a des scènes où la petite fille dort dans le laboratoire du médecin, elle est entourée moi, on me fait ça, je dors pas. Hein. Et elle s'y sent bien et elle va complètement, ça va lui changer la vie. Allez-y, c'est vraiment une pure merveille,
ce bouquin. Ça s'appelle Petite, l'auteur c'est Édouard Carré et c'est aux éditions du Cherche Midi.
C'est un joli
livre. J'ai très envie de le lire.
Ouais.
Alors moi, c'est un livre dont je vous ai parlé il y a 15 jours, ça s'appelle Ça ne pouvait pas tourner autrement, d'Eliane Saliba Garillon, elle est libanaise. Et alors c'est un livre, je vais vous dire, moi j'ai j'ai adoré, je vous en avais parlé, c'est aux éditions L'Escampette, c'est une petite maison d'édition. Oui. La couverture, comme dirait Gérard, le livre, il est comme la couverture. Ça se passe à San Francisco. Moi, je l'ai lu, j'ai adoré, j'ai donné à ma maman, qui l'a adoré, qui l'a donné à sa sœur. Bref, c'est un livre qui s'est passé de main en main. Et j'avais envie de vous en reparler parce que c'est vraiment un livre dans lequel vous plongez et qui va vous rendre heureux. Donc, c'est l'histoire de Mel et Martin. Alors, ils n'ont pas de chance. Il y en a un, sa femme est morte, et l'autre, sa femme l'a foutu dehors. Mel, il est un peu un écrivain raté dans une station de radio. L'autre, il est un peu ronchon, il ne rêve, il ne parle que de sa femme. Et puis, Mel va trouver refuge chez son copain Martin. Alors, évidemment, c'est deux vieux garçons qui vont un peu pas avoir tout à fait la même façon de voir. Et puis, Mel, il aime bien aller dans un parc à San Francisco, très beau, hein, j'ai vérifié, qui existe, où là, il va échanger avec une femme dont il ne sait pas grand-chose. Et puis, un jour, il disparaît. Bon, je ne vous en dis pas plus. Il y a une femme de ménage syrienne qui arrive aussi dans cette histoire. C'est drôle, c'est sympa, c'est tendre, et ça vous fait passer un super moment.
C'est ce qu'on appelle le livre doudou.
Ouais,
c'est-à-dire, c'est des livres dont on se souvient comme ça, qui sont assez réconfortants quand
et
même.
Et c'est vraiment sur ces deux hommes, cette amitié qui est très drôle. Donc, ça ne pouvait pas tourner autrement. Si vous voulez passer un bon moment, allez-y. L'auteur, Eliane Saliba Garillon, aux éditions L'Escampette.
Je vous propose deux petits polars qui sont exactement des livres médicaments. Vous savez, ça vous fait repeindre, ça vous repeint vos neurones, ça vous fait sourire. Vous voyez, il y en a marre, le Covid et tout. Alors, elle s'appelle Joanne Fluck, FLU. Et ça s'appelle Meurtre et Charlotte aux fraises et Meurtre et pépites de chocolat. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui retourne dans son village, enfin dans sa ville, et elle décide de créer une pâtisserie. Et alors, les cookies, vous voyez, c'est déjà rien que ça, vous êtes. En plus, vous pouvez les manger sans grossir, donc c'est super. Tout va bien, juste au moment où il y a un de ses commis qui est retrouvé mort derrière sa pâtisserie. Là, gros problème. Elle a un oncle et cet oncle, il est shérif et il n'est pas très à la hauteur, donc il lui demande son aide. Alors là, elle est géniale, autant pas comme pâtissière que comme enquêtrice. Ouais. Et vous allez vous balader. Alors, c'est plein de rebondissements. C'est léger, c'est pétillant, c'est drôle. En plus, c'est un vrai polar, c'est passionnant. Et ça, c'est pour vous, parce que moi, je ne m'y risquerai pas. Il y a un carnet de recettes de cuisine, de toutes les recettes de qu'elle fait dans sa pâtisserie. Alors, moi, j'étais un peu sceptique. La couverture est superbe. Ouais, c'est tout en rose. Je me suis dit, c'est encore un truc pour, vous savez... un peu neuneux. Et pas du tout, vous êtes complètement dedans. C'est sympa comme tout. C'est les deux premiers. Alors, le premier à lire, c'est Meurtre et pépites de chocolat. Après, vous pourrez les lire dans le désordre, mais là, il y a la description de la personnage. C'est génial. Vous mangez des pâtisseries, vous les dégustez, vous grossissez pas.
Et puis, il y a une enquête. Alors, j'ai appris que ce genre de polar, de roman policier, ça s'appelle des cozy crimes.
Oui.
Parce que j'ai découvert aux éditions de la Martinière. Alors, ça va paraître dans quelques jours, Les Dames de Marlowe enquête. Donc, c'est pareil. Ça s'appelle Mort contre triple. Alors là, c'est l'histoire d'une... c'est évidemment, pas sans rappeler Miss Marple. Oui. C'est qu'en fait, ce sont des enquêtrices qui ne sont pas des flics. C'est des enquêteurs amateurs. Là, c'est une dame. Alors, elle a 77 ans, elle boit du whisky, elle se baigne toute nue dans la Tamise, elle est un peu fofolle, un peu excentrique. Son voisin est retrouvé mort, la police ne la croit pas, ne croit pas que c'est un meurtre, et là, elle va se mettre à enquêter. Et alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a des... Comme elle est fan de mots croisés, il y a des grilles de mots croisés à l'intérieur. Et donc, c'est cozy crime, c'est pas de sang, pas de violence, pas de détails gore, ça se passe en général à la campagne, ça fait du bien. Ouais. Donc, on rappelle, donc, Meurtre et pépites de chocolat, c'est aux éditions Cherche Midi. Encore une fois... Ouais. L'auteur s'appelle Anna Swenson et celui-ci qui va paraître chez La Martinière, c'est vraiment sympa à lire, c'est divertissant. Les Dames de Marlowe enquête, ça s'appelle Mort contre triple.
Et les critiques n'en parlent pas beaucoup parce que ça fait, mais franchement, ça fait énormément de bien.
On va rester dans l'Angleterre.
J'ai adoré. Je suis tombée par hasard. Elle s'appelle Alatea Fitzalano Ward. Oui. Ça s'appelle Dans l'intimité des Windsor, c'est chez Stock. Oui. Alors c'est son journal. C'est une petite partie de son journal parce qu'elle meurt.
Du journal de l'auteur ?
Oui.
D'accord.
En fait, cette femme, c'est la fille d'une famille absolument aristocrate, grands aristocrates anglais. Son grand-père était le dernier vice-roi d'Irlande. Arrive la guerre, elle a 18 ans. Et donc, ses parents ne s'entendent pas bien. On l'envoie chez son grand-père. Et son grand-père, il habite dans un cottage. Alors, ce qu'ils appellent un cottage... Vous savez, c'est carrément le château de Versailles. Quoi. Le cottage. Et ce cottage, il est à côté du château de Windsor. Et elle s'ennuie avec ce grand-père et elle va se balader. Et là, elle va rencontrer toute la famille royale, la princesse
reine,
Margaret.
Ouais, la reine Elisabeth.
Voilà, mais elles ont l'âge. Et alors là, elle décrit au jour le jour. Alors déjà, elle n'a pas la langue dans sa poche. Déjà, on découvre qu'Elisabeth, avec le prince Philippe, déjà, elle est super amoureuse.
Ouais.
Et elle lui dit, moi,
plus.
C'est pas mon type. Ouais. C'est vraiment... Et là, vous allez découvrir c'est ce qu'ils disent, mais c'est très vrai, une reine Elisabeth, une jeune fille, qui est complètement différente de ce qu'elle est, c'est ce qu'elle est vraiment, mais qu'elle a caché derrière après ce masque.
Tout l'apparat.
Et elle est drôle, elle est vive, elle est pétillante, alors elle est déjà consciente de ce qu'elle est, elle est rigolote, mais enfin, faut pas non plus. Et alors, cette jeune fille, ses parents sont très durs avec elle, et elle va retrouver une sorte d'intimité, d'amour familial à travers la reine et le roi, le père d'Elisabeth. Ça se lit, c'est des petits chapitres. Et puis alors, elle décrit les vêtements. Elle est méchante comme tout, en disant, mais il est habillé n'importe comment. Et puis, vous allez voir que c'était... Alors, il y a les bombes, parce qu'on voit, il y a des thés, ils boivent le thé, ça a tout le monde aux abris. Et c'est très... j'ai l'impression, vous voyez, on est dedans,
c'est une contemporaine, en fait. Donc, Alatea Fitzalan Howard, c'est une contemporaine de la reine Elisabeth, et c'est ces années entre 1940 et 1945, donc pendant la guerre aussi. Donc
elle ne l'a jamais trahi, c'est-à-dire qu'elle a traduit, on lui a donné, le journal est paru, mais avec l'autorisation de la reine après, alors qu'elle raconte l'histoire de cette nurse anglaise qui a fait une biographie de la reine, enfant, et qui a été tricard au niveau de de la famille royale, limite à se suicider. Donc c'était allez-y, c'est un bon...
Donc c'est chez Stock, ça s'appelle Dans l'intimité des Windsor, on vient de célébrer les 95 ans de la reine d'Angleterre, c'est une manière de la redécouvrir.
Absolument.
Il y a eu effectivement The Crown aussi qui la décrivait. Mais là, c'est différent. Quelqu'un qui a partagé son quotidien.
Et c'est des vraies personnes. Je veux dire, on n'est pas dans le spectacle du tout. En plus, elle n'était pas sûre de le faire paraître. Elle le faisait, elle était toute jeune, c'était pour elle.
Un truc
extraordinaire, c'est un polar. Ça s'appelle La quarantaine, c'est Rouergue noire de Peter May. Alors, Peter May, c'est un énorme écrivain de polar anglo-saxon. Nous, on le connaît maintenant, on commence à le connaître en France, mais c'est pas... Et là, il a écrit... Alors, en 2005, il va voir son éditeur, il lui propose un livre, un polar, qui se passe à Londres. Londres est sous pandémie, c'est-à-dire que les gens attrapent une espèce de grippe à travers les postillons, il faut des masques, on confine les gens, il y a limite des bagarres, et alors l'éditeur lui dit, écoutez, mon petit bonhomme, vous êtes célèbre, mais ça, c'est pas plausible, donc ça marchera pas, et tout. Donc, on lui refuse son polar, et là, arrive, il repropose en 2020, forcément l'éditeur, il plonge, et c'est un polar extraordinaire. C'est l'histoire de c'est le dernier jour d'un enquêteur, il va prendre sa retraite, c'est l'hécatombe, il y a des morts partout et tout, et là il découvre dans un jardin un petit squelette d'une petite fille, et de ce petit, alors on lui dit, écoute, ton squelette, on a autre chose à faire que... Et lui, il se dit, non, je veux savoir ce qui s'est passé. Il va être têtu envers et contre tout, et vous allez voir, c'est une machination absolument diabolique derrière cette histoire de squelette. Et puis c'est la description de... Moi, je trouve ça extraordinaire, ce type en 2005 décrit exactement exactement, c'est fascinant. Ça s'appelle La quarantaine, c'est Peter May et c'est au Rouergue noire, allez-y, ne le loupez pas. Et pourtant, Dieu sait si le Covid, j'en ai... je me suis fait avoir.
Je vous signale, je ne l'ai pas encore lu, Lettre à mon fils Charb de Denise Charbonnier, la maman de Charb qui a publié chez La Thèse une lettre à son fils Charb qui a été tué, assassiné lors de l'attentat de Charlie Hebdo. Je vais le lire, mais je voulais vous le signaler parce que je crois que c'est un livre très émouvant, poignant. Elle parle de lui enfant, c'est à la fois, paraît-il, drôle et émouvant, et voilà, comme c'est courageux d'écrire ce genre de livre. Je crois qu'elle voulait lui rendre hommage. Donc,
je crois que c'est des gens qui font entretenir la mémoire pour...
Absolument, faut dire qui il était, que c'était pas quelqu'un de raciste, bien au contraire. Lettre à mon fils Charb, c'est chez Denise Charbonnier, et c'est Denise Charbonnier qui l'a écrit. C'est chez La Thèse, et on vous en reparlera. Merci Gérard, à la semaine prochaine.
À bientôt.